Bonjour et bienvenue dans Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Une discussion avec Dominique Duvivier qu'on est content de retrouver. Dominique, bonjour.
Bonjour.
Dominique, si je vous dis Ricky Jay, si je vous dis Eddie Teitelbaum, Goshman, si je vous dis Jean Gabin, qu'est-ce que ça vous évoque?
Ben pour la plupart des noms que tu viens de citer, ça m'évoque la comédie, ça m'évoque le jeu, donc la mise en scène, les situations, les caractères de personnages, quoi. Eddie Teitelbaum, c'est un peu différent parce que lui, c'est plus mon côté objet rare, objet truqué, complexe, que tu peux donner, examiner, qui fonctionne avec des combinaisons. C'est mon côté un peu chinois, ça.
J'aime bien.
Mais les autres que tu as cités, c'est complètement la comédie, quoi.
Alors, pourquoi je vous cite? J'aurais très bien pu citer les Beatles, et là vous allez comprendre où je veux en venir très précisément. Je veux en venir aux sources d'inspiration, en fait. Sur, à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de créer un tour et comment on s'inspire pour découvrir ou trouver quelque chose de plus ou moins original, en fait. Il faut donc bien puiser ses inventions dans quelque chose, parce que rien ne naît de rien, finalement. Vos sources d'inspiration, en premier lieu, ce serait quoi? Ce serait la musique, le cinéma, un acteur en particulier?
Comme je dis souvent dans le genre de questions quand on me les pose, même si on ne va pas poser cette question-là précisément, tu m'aurais posé cette question il y a 30 ans, je t'aurais dit c'est ça, ça ou ça. 30 ans plus tard, c'est un peu ça, ça, ça et ça, tu vois, plutôt. Dans le sens que un moment, ça va être un son qui va m'enclencher, mais un son qui n'est même pas un son musical, tu vois, une porte qui se ferme ou je sais pas quoi, parce que je suis toujours en éveil sur comment on peut fabriquer un spectacle, fabriquer un tour, une situation, une ambiance. Donc au jour d'aujourd'hui, ça va être parfois un morceau de musique, parfois un film, parfois un roman que je lis, parfois un magazine. De temps en temps, je vois un magicien faire quelque chose qui va indirectement me faire réfléchir, un peu comme je le disais une autre fois, sur le bloc d'acier, là. Ça va être un peu à la carte, quoi, c'est le cas de le dire. Je m'interdis maintenant de me focaliser sur une méthode. Je me rappelle une interview qui m'avait beaucoup marqué de Georges Simenon, où il avait cette manière incroyable de décrire, où en gros, Pivot l'interrogeait sur plusieurs jours, on sentait, et en gros, il expliquait que genre, il se levait à 6h le matin, et puis à 7h il se lavait, et puis à 8h après son petit déjeuner, 8h30 il écrivait, jusqu'à midi, à midi il déjeunait, après il faisait une sieste, après il allait voir éventuellement une pute, parce qu'il a été voir beaucoup de prostituées. Et puis mettons de 16 à 18 il réécrivait, et puis après il dînait, et puis après il se couchait, enfin toi genre. Mais il t'expliquait ça comme de prendre son petit déjeuner, quoi, tu vois. Donc il ne parlait jamais de création, alors qu'en même temps, c'est évident qu'il créait. Mais pour lui, c'était à heure fixe, il se met à sa machine, et il expliquait même que, là encore je me trompe sûrement dans le nombre, mais il expliquait que maintenant, à son âge, il faisait des livres, des romans, que de 5 chapitres, parce que avant il faisait de 7, par exemple, hein, je ne me rappelle plus celui du nom. Mais 7, c'est trop épuisant, quoi, tu vois. Donc, parce que pendant tout le temps du roman, il était le personnage et tous les personnages.
Oui.
Donc ça l'usait, ça le bouffait, tu vois, littéralement. Et il s'était rendu compte qu'à partir d'un certain âge, c'était moins fatigant d'écrire des romans de 5 chapitres plutôt que de 7, parce que alors là, 7, ça le... Et tu vois, tout ça, c'était très, presque arithmétique, quoi, oui. Tu vois.
Très rythmé.
Oui. Et je dirais presque, à mon petit niveau microscopique, bah, c'est un peu ce qui se passe pour moi maintenant. C'est-à-dire que c'est pas du tout arithmétique, parce que je viens de te dire, de moi, ça n'a rien à voir. Mais je trouve que c'est un peu comme Simenon d'une autre façon, dans le sens que bah, moi, tout a un lien possible. Ça, c'est pas par hasard que dans mon bureau, j'ai Gabin, justement, j'ai les Beatles. Puis j'ai différentes choses qui n'ont rien à voir. Des personnages un peu cocasses, une espèce de... Je ne sais même pas comment s'appeler, ça peut s'appeler, quoi, tu vois, mais j'ai un golfeur ridicule, j'ai un
des
avocat...
De sculpture, ouais. Caricature...
Ouais, c'est, mais je trouve que c'est très expressif, ça. Enfin, j'aime bien. Ça, c'est inspirant pour moi, tu vois.
C'est très cartoon, hein.
Ouais, mais j'aime bien. C'est décalé, c'est... En gros, maintenant, je m'attelle plus à me laisser aller au moment... pour réfléchir et inventer que pendant de longues années, j'avais sur ma table X objets, des listes, et je m'imposais de travailler sur tel thème, tel axe, tel effet, je cherchais même des mouvements, tu vois, je m'imposais un ou deux ou trois mouvements par semaine ou par mois, nouveaux, pour essayer de compter X cartes, pour montrer d'une certaine façon tel objet. Je me forçais à travailler un peu différentes obédiences, si on peut dire. Alors que maintenant, bah, c'est un peu free, quoi.
D'accord. Alors, j'ai l'impression quand même quand je vous écoute, depuis maintenant, ça fait... 10 émissions qu'on fait, enfin celle-là c'est la 10e déjà. L'artiste que vous êtes, c'est quelqu'un qui est forcément tourné vers lui-même, mais aussi beaucoup les yeux ouverts et un peu à l'écoute du monde, en quelque sorte. Pour trouver justement, enfin pour vous nourrir, pour pouvoir délivrer ensuite, digérer tout ça et délivrer quelque chose. Est-ce que vous pensez qu'un artiste, c'est quelqu'un qui est en même temps un peu autiste, on va dire, tourné vers lui, mais aussi beaucoup observateur?
Ouais, je crois que du moins ceux que j'admire, des gens comme Modigliani, Dali et d'autres, sont des gens qui ont souffert, tu vois. Donc moi, j'ai pas souffert du tout, mais j'ai été incompris, mal aimé par beaucoup de gens de ma confrérie, quoi, du monde magique. Et je pense que ça a été, d'ailleurs je l'ai écrit un jour dans une revue magique, que je remerciais mes ennemis. On peut croire que c'est des magots, mais c'est pas le cas, c'est que mes ennemis se rendent pas compte à quel point ils m'ont apporté de la niaque et de l'envie et la production que j'ai fabriquée, quoi. Je pense que si j'avais été aimé, respecté, sans aucune polémique ou presque sur mon compte, pour ma part, je pense que ça ne m'aurait pas permis d'aller bien loin.
Ça vous a motivé?
C'est plus que ça, ça m'a fait grandir.
Oui.
Ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait inventer. Par exemple, une des personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, sans dire le nom, enfin une autre fois, dans une autre émission, qui disait qu'on ne peut rien inventer en magie, ce que je trouve aberrant même encore aujourd'hui, tout bien en y réfléchissant, cette personne ne se rend pas compte à quel point elle a été le premier moteur de ma recherche et de ma création.
Oui.
Parce que quand j'ai entendu ça, je suis rentré chez moi et ça a été mon idée première. Eh ben, je vais lui montrer si on ne peut pas inventer d'autres choses. Alors, je ne sais même pas s'il est au courant, lui, que j'ai inventé des choses vraiment nouvelles. Je dirais, je m'en fous. C'est ça qui est intéressant dans ce genre de choses que je te dis là. C'est que j'ai eu beaucoup d'ennemis, des ennemis farouches, mais tous ces ennemis m'ont permis, un peu comme celui qui disait là, ce n'est pas un ennemi. Hein, celle-là, cette personne qui me dit, on ne peut pas inventer, tout a déjà été créé. Bah, ça m'a juste donné envie d'écrire une dizaine de bouquins, X revues et des vidéos à n'en plus finir.
Ouais.
Je pense que si il m'avait pas dit ça, bien sûr que j'aurais sûrement réfléchi parce que c'était mon truc, mais je pense que ça aurait été moins net.
Ouais.
Tu vois ? Donc je pense, je sais pas si ça répond bien à ta question, que un artiste en général, pour qu'il soit entre guillemets plus ou moins intéressant, plus ou moins bon, plus ou moins génial, j'en reviens à des gens comme Modigliani, Dali et plein d'autres, quand tu as souffert et que tu vas exprimer ta souffrance à travers un art que tu as choisi, parce que comme je l'ai déjà dit, moi j'ai choisi la magie, mais j'aurais pu choisir la musique ou la peinture ou la sculpture, je sens que j'avais des choses à dire.
Ouais.
Il s'est trouvé que l'outil que j'ai choisi, c'était la magie, mais ça aurait pu être un autre outil. Parce que c'est qu'un outil d'expression.
Ouais.
C'est pour ça que j'aime pas la technique pour la technique en magie. Il y en a, ils sont contents d'exprimer la technique pour la technique, mais moi j'avais besoin de faire quelque chose de ça. Et donc comme j'ai eu une enfance tout à fait heureuse, bah, j'ai eu ces antagonismes avec des gens, et je pense que c'est ça qui m'a permis d'aller loin.
Alors aujourd'hui, si on revient sur les sources d'inspiration, encore aujourd'hui, si vous regardez un film, si vous écoutez une musique nouvelle, ou en tout cas que vous ne connaissiez pas, ça peut déclencher des choses chez vous. Vous avez des choses à dire, vous le disiez, je sentais que j'avais des choses à dire, mais il faut aussi, à un moment donné, concrétiser, savoir comment on va dire ces fameuses choses, les faire sortir. Un film, encore aujourd'hui, une musique, ça peut déclencher ça.
Ah oui, oui.
Et il faut pour vous, c'est vital ou...
Bah, tu vois, certainement ça doit l'être, mais je m'en rends plus compte.
Oui.
Avant, j'étais à la recherche, parce que j'étais très boulimique. C'est pour ça que j'ai inventé tant de tours, c'est que j'avais peur de manquer. Mais vraiment, je crois que c'est une peur viscérale qui est née quand j'étais dans le ventre de ma maman, tu vois. Parce que je suis né en 50, c'est-à-dire juste après-guerre.
Ouais.
Ça veut dire que ma mère a vécu les privations, il y a eu les tickets, tu vois, de rationnement. Moi, j'ai pas connu les tickets de rationnement. Quand je suis né, il n'y avait plus de tickets. Ça faisait pas longtemps.
Ah oui.
Mais j'ai dû avoir toujours cette notion du manque. Tu vois, par exemple, dans les années 60, 65, 70, il y a eu, à un moment donné, la guerre froide entre les Russes et les Américains. Moi, je fais partie des gens, avec mes parents, où on a acheté du sucre, on a acheté de l'huile, on a acheté des trucs. Il y a eu une autre crise dans les années 70, 75... juste après 68, bah, je faisais partie des gens qui achetaient des boîtes de conserve, des machins, tu vois. J'ai vraiment toujours été comme ça. Et au niveau création, c'est un peu la même chose. Chaque mois, je m'imposais d'inventer un certain nombre de trucs parce que j'avais peur que le mois d'après, peut-être, je ne serais plus capable.
Ouais.
Je serais en panne d'inspiration. Tu vois. Une autre façon de... l'angoisse de la feuille blanche, si tu veux. Sauf que là, c'était pas avec du papier, mais c'était avec des idées, avec des tours, avec des choses. Et très souvent, mais pendant de longues années, à la fin d'une année, un 31 décembre, j'avais toujours une espèce de morosité, parce que je me disais, l'année prochaine, est-ce que je vais être capable de trouver mieux que cette année ? Et comme je travaillais beaucoup, 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 comme je te l'ai déjà dit dans d'autres émissions, la barre était haute chaque année.
Oui.
Tu vois ? Et ça fait que peu d'années, moi je dirais une petite dizaine, où j'ai plus cette peur, où je produis pas, mais c'est vrai que dans l'ensemble je produis quand même, mais je suis plus à me dire le 31 décembre un truc, je suis plus à me dire le mois d'après t'as de soins, je me dis plus rien. J'invente mes trucs, si pendant quelques jours j'en invente pas, bah j'en invente pas. Je suis pas, tu vois, dans l'angoisse de la feuille blanche, mais je suis toujours pareil, quand même, quelque part, dans le sens que maintenant j'ai le blog, par exemple.
Oui.
Bah, le blog, au départ, je me suis avancé sur un mois ou deux, alors que je sors un truc toutes les semaines. Hein. Et là, Adeline me disait, c'est elle qui gère mon blog. Ah bah tiens, là, tu vois, si tu t'arrêtes d'écrire des articles, j'en ai pour 3 ans. Parce que ça a été plus fort que moi.
Oui.
J'ai produit pendant les 2-3 dernières années tellement d'articles et tellement de trucs et de familles que j'ai essayé de faire des familles différentes aussi dans le blog pour que ça soit varié, que ça soit intéressant, que ça plaise aux lecteurs. Et ben, elle me disait ça il y a quoi, un mois j'ai à peu près pour 3 ans de publication. Tu vois, c'est maladif chez moi. De la même manière, quand j'invente un tour, c'est l'idée du grain de blé sur l'échiquier.
Oui.
Je me sens mal si j'invente un tour avec un effet. J'ai peur d'être compris. Si j'ai peur d'être compris, ça va me créer le stress, voire le trac. C'est le principe de la boulimie dont je te parlais,
oui,
au niveau de mettre des boîtes de conserve de côté. Quand j'invente un tour, il faut forcément qu'il y ait 7, 10, 15 effets dedans. Tu vois ? Un magicien est content quand il a un temps d'avance. Moi, je me sens bien avec 10, 15, 20 temps d'avance. Si je n'ai pas plein de temps d'avance, je me dis, on va me suivre, on va me comprendre. Du coup, je vais téléphoner. Du coup...
Oui.
Tu vois ?
Du coup, je vais pas être bon.
Du coup, je vais pas être bon.
Ouais. Et cette histoire de boulimie, c'est marrant parce que vous dites que vous êtes dans une espèce de plénitude en fait aujourd'hui où vous avez moins d'inquiétude par rapport aux années précédentes. Néanmoins, aujourd'hui toujours, vous avez même des temps d'avance sur les spectacles que vous produisez.
Oui.
C'est-à-dire que celui que vous jouez aujourd'hui, ok, vous le jouez aujourd'hui, mais le prochain, voire le prochain du prochain, est déjà écrit ou au moins en gestation.
Oui. Ah bah là, ouais, j'ai mon prochain spectacle est déjà prêt. J'ai déjà mes mallettes, tout est prêt. J'ai même fait mon pré-DVD perso pour plus avoir qu'à le regarder et à rentrer dans le personnage. Et à prendre les objets et faire le spectacle. J'ai le titre, j'ai l'affiche. Tout est prêt depuis 1 an.
Oui.
Et ça sera celui qui sera joué en 2012, en octobre. Alors pour l'instant, on est en octobre 2011 et je suis en train de jouer suite cette année. Quoi. Oui.
Donc vous... Certes, vous êtes moins inquiet, mais vous continuez sur ce rythme-là.
Voilà,
parce que j'ai l'impression qu'on ne sait jamais, quoi.
Bah, t'as raison, c'est-à-dire que c'est vrai que je suis moins inquiet, mais c'est parce que j'ai trouvé une vitesse de croisière où j'ai pas besoin d'être inquiet, puisque
oui,
j'ai quand même préparé une ou deux ou trois années d'avance. Ouais. Parce que j'ai mon spectacle de 2013 et 2014 qui sont là, par contre, à l'ébauche.
Au stade de l'écriture,
ouais,
de la réflexion.
De bouts, tu vois, j'ai des petits bouts.
Des petits bouts. Et alors, c'est quoi ? C'est des thèmes qui vous viennent ? Je dis un thème général sur lequel vous allez pouvoir broder, ou c'est...
Bah, celui de, bon, qui sera peut-être jamais programmé, d'ailleurs, en 2014, celle qui sortira plus tôt ou jamais. Mais la base, là, mon thème de base 2014, c'est justement par rapport à ce que je t'ai dit sur le bloc. C'est un spectacle pratiquement tout entier sur tout ce qui est qui n'a pas pu se passer, quoi. Mm-hmm. Je fais vivre des choses aux gens, mais en fait, non. Et pour l'instant, un des trucs qui me pose problème, et j'ai le temps puisque c'est pour dans quelques années, c'est de me dire comment je peux, comment ça se passe la révélation de ça. Tu vois. Parce que quelque part, si c'était possible, bah tu commences tous les tours, ça fait, allez, on va dire 1h05, tu les as à moitié finis. Puis maintenant, t'as une vingtaine d'objets sur la table qui ont en fait ont été tous les objets de l'heure 5 de spectacle.
Oui.
Et maintenant, tu vas montrer, un peu comme j'ai montré avec le cran d'arrêt dans une autre émission, et ben, tout ce qui est là, qu'on a vécu, on l'a pas vécu. Et tac, tu démantibules tout ça. Mais ça, c'est pas jouable. Donc c'est là où ça devient compliqué parce que ça sera intéressant le jour où j'aurai trouvé le pitch, en plus de la colonne vertébrale qui est des choses qu'on croit qu'on a vécues, qu'on n'a pas vécues.
Ouais.
Mais tu peux pas faire tous tes trucs et révéler tout après d'un coup.
Ouais.
Ça, ça va pas.
Ouais.
Mais ça, c'est parce que c'est pour 2014. Alors j'espère, entre-temps, trouver le biais psychologique ou autre qui me permettra de crédibiliser ça.
Ouais. Crédibiliser. Alors, bah écoutez, on est déjà à 21 minutes d'enregistrement, ça s'est passé extrêmement vite. Donc la 10e émission de Et si c'était vrai, c'est terminé. Donc pas d'inquiétude, on en aura d'autres qui vont venir. Et en attendant, bah, je vous souhaite une très très bonne journée à tous, à toutes, et puis bah, à bientôt.
Ah oui.